Jacques Attali, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous avez fait de l'histoire globale bien avant que ce soit la mode, hein, en publiant des histoires mondiales de la musique, de la santé, du temps, de la propriété, du nomadisme, du peuple juif, de la mer, de l'alimentation, des médias, j'en oublie. Voici celle de la transmission, ça s'intitule « Histoire et avenir de l'éducation », c'est paru aux éditions Flammarion. C'est pas le propre de l'être humain, hein, nous dites-vous, la transmission. Vous citez le cas des mésanges à Londres en 1920.
D'abord, en effet, les animaux transmettent, certains pas du tout, certains abandonnent leur nouveau-né tout seul pour qu'il se forme tout seul, d'autres les forment, il y a d'innombrables formes très fascinantes. Alors le cas des mésanges de Londres est un peu particulier parce que c'est le cas où non seulement elles se forment, mais elles forment leurs descendants, mais où elles apprennent des choses nouvelles par elles-mêmes. Elles ont appris, dans ce cas-là, à ouvrir les opercules de bouteilles de lait. Une mésange l'a fait et on ne sait pas comment.
La bouteille de lait qu'on laisse devant la porte à Londres.
À Londres, voilà. Et une l'a fait et ça a été étudié. On a constaté que quelques semaines plus tard, c'était le cas de très grand nombre de mésanges autour d'elle. Et quelques années plus tard, de toutes les mésanges de Londres.
Toutes les mésanges avaient chopé le truc.
Voilà. C'est quand même... qui indique un processus de transmission dont on ne sait rien encore aujourd'hui.
Vous parlez aussi au Japon en 1953 d'une femelle macaque qui a lavé des patates douces dans l'eau de mer. Et de la même manière...
Les autres en fait autant.
Voilà, toutes les femelles macaques se sont mis à laver des patates douces dans l'eau de mer. Vous nous expliquez dans votre livre, Jacques Attali, que les puissants ont presque toujours cherché à priver les peuples des savoirs qui menaçaient leurs privilèges. Au fond, c'est presque la trame de votre livre.
Oui, ça, c'est une grande constante. Il y a beaucoup de constantes. C'est pour ça, d'ailleurs, que je cherche à comprendre l'avenir en cherchant les constantes dans le passé, puisque l'avenir va les reproduire. Une des constantes, c'est d'écarter les femmes de toute compétence. Une deuxième constante, c'est de maintenir les classes sociales ou les structures sociales par les savoirs auxquels les gens ont accès. Donc, les plus puissants donnent à leurs enfants l'accès au savoir. Qui permettent de maintenir le pouvoir, et avec l'obsession de faire en sorte que les peuples, les classes inférieures, ne savent pas lire, ni écrire, ni compter, parce que c'est vraiment trop dangereux. C'est même parfois écrit explicitement, c'est écrit par Platon, c'est écrit par Richelieu dans son testament posthume, qu'on a connu qu'après sa mort, et par beaucoup de dirigeants, les Chinois anciens l'ont fait, et aujourd'hui encore, c'est peut-être plus implicite. Mais il y a beaucoup de sociétés totalitaires qui n'ont pas trop envie que les peuples en sachent trop.
On peut prendre le cas des femmes, c'est aussi, on peut l'imaginer, pour la même raison qu'au fond, on les prive d'instruction.
Oui, c'est à la fois pour maintenir le pouvoir des hommes, les hommes sont entre eux, ils maintiennent leur pouvoir, et c'est le fait de refuser la différence qu'apporteraient les femmes dans la société. Même, c'est une constante incroyable, cette division des rôles qui fait que les femmes n'ont pas le droit à la connaissance. Alors, il y a quelques exceptions assez tôt. Par exemple, le peuple juif qui, très vite, demande à ce que tout le monde sache lire et écrire. Puis ensuite, à partir du protestantisme, au 16e siècle plutôt, le début aussi d'une demande de savoir lire. Mais c'est toujours, dans les deux cas, pour savoir lire la Bible et rien d'autre. Et on peut admirer des cas que je cite tout au long des siècles de quelques femmes qui ont réussi à échapper à cette dictature des hommes pour pouvoir accéder à des savoirs. Il y a des exemples incroyables. Et puis aujourd'hui, on sent que cette bataille est en train d'être plus ou moins gagnée. Parce que si vous prenez ce qui se passe avec le Covid qui a chassé des écoles pendant presque 2 ans, tous les enfants d'Afrique et une grande partie de l'Inde, la moitié d'entre eux, un peu moins de la moitié d'entre eux, sont parvenus à l'école après. Et sur cette moitié qui n'est parvenue à l'école, 80% sont des filles qui ne viendront plus jamais à l'école, qui vont se marier très jeunes et qui auront des enfants dont elles ne pourront pas aider la scolarité. Donc, la malédiction féminine du savoir continue.
Vous nous rappelez dans ce livre, Jacques Attali, qu'au fond, pendant les 15 premiers siècles de notre ère, ce sont les trois grandes religions monothéistes qui se sont réservées le monopole de l'école. Hein, et elles sont servies pour transmettre leurs lois.
Exactement. L'Église catholique, dès qu'elle prend le pouvoir à partir du 3, 4e, 5e siècle, élimine l'enseignement gréco-romain, prend le pouvoir essentiellement pour former ses cadres religieux, un peu pour former les élites, de façon à ce que les élites soient en connivence avec l'Église, mais c'est d'abord pour cela, et ça va être le cas aussi de l'islam, qui tout de suite, dès qu'il s'installe, veut former ses cadres uniquement ces cadres.
Alors, ce qu'on peut se dire, c'est qu'au fond, pendant toute cette période, l'essentiel de la transmission s'est faite par les familles, par les clans, par le travail, par les corporations.
Par la rue aussi, par les forums.
Par la rue, voilà. On apprend la vie, au fond, mais pour former les cadres de l'administration ou les cadres religieux, on a besoin de l'école, et l'école est entre les mains des religions monothéistes.
Oui, avec un cas tout à fait différent qui est celui de la Chine, où le religieux est complètement différent, puisque c'est plutôt une religion des ancêtres, où le pouvoir appartient à un empereur qui lui-même est considéré comme un quasi-dieu, et où l'organisation de l'empire, qui est vraiment la hantise des empereurs, il faut que l'empire tienne, se fait par un système scolaire extraordinairement rigoureux, avec des concours, avec une hiérarchie, mais des concours sur des savoirs extraordinairement traditionnels. D'ailleurs, il faut savoir que c'est par la Chine que la notion de concours est arrivée en Europe, puisque c'est quand des jésuites au XVIIe siècle, sont allés en Chine, qu'ils ont découvert les concours et qu'ils les ont ramenés en Europe.
C'est pour cette raison que la Chine, à votre avis, reste la superpuissance économique pendant des millénaires.
Elle reste une superpuissance parce qu'elle a tous les atouts matériels de richesse agricole et de puissance, mais elle a aussi une très grande population et qu'elle réussit à certaines périodes de son histoire, pas toujours, à maintenir un système unifié, et elle réussit à maintenir un système extraordinairement sophistiqué de formation de ces cadres à tous les niveaux de la société.
On fait une pause, Jacques Attali, on se retrouve tout de suite après.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Jacques Attali qui publie « Histoire et avenir de l'éducation » aux éditions Flammarion. Il y a une révolution qui se passe avec Luther, hein, qui veut que tout le monde lise la Bible. Au fond, il veut que tout le monde puisse aller directement au texte.
Voilà. Il veut revenir à ce qu'étaient les fondements du monothéisme au temps du judaïsme. Tout le monde doit savoir lire. Et il est aidé par une révolution concomitante, qui est d'ailleurs une incroyable coïncidence, c'est l'imprimerie, qui va permettre d'imprimer la Bible à Moulin-Foy. Lui-même la comprend très vite, puisqu'il traduit lui-même la Bible en allemand, et il fait en sorte que tout le monde l'ait. Donc ça va permettre d'enseigner à tout le monde, mais pas tout. On va enseigner la Bible luthérienne, et on va enseigner tout ce qui est lié à ça. Mais naturellement, ça va vite déborder, parce qu'à partir du moment où les gens savent lire et écrire, ben, ils ont envie d'apprendre autre chose que simplement lire les textes sacrés.
À peu près au même moment, il y a la première alphabétisation de masse aux Pays-Bas.
C'est le premier pays qui, devenant protestant, va obliger tout le monde à savoir lire et écrire.
Mais pourquoi les protestants ?
Justement pour la raison que Luther...
Parce qu'ils veulent aller directement au texte, passer de l'Église au fond.
Se passer de l'Église, et ils vont éliminer l'Église. Il faut aussi ne pas oublier que le premier texte imprimé, on dit souvent que le premier texte imprimé c'est la Bible, c'est pas vrai. Le premier texte imprimé en masse, ça va être des formulaires d'indulgence, c'est-à-dire on vous donne ce formulaire, vous le signez, vous le remplissez, vous payez, et vous avez droit à l'indulgence, c'est-à-dire pardon de vos offenses.
Ça c'était le catholicisme, tel que Luther le dénonce.
Exactement, justement. Et donc... Juste avant Luther et après l'invention de l'imprimerie, il y a un moment où l'imprimerie est un moyen de corruption qui va d'ailleurs permettre de construire Saint-Pierre à Rome.
Mais alors la réaction à la réforme, ce sont justement les jésuites dont vous parliez tout à l'heure, dont l'enseignement est encore réputé aujourd'hui. On dit de quelqu'un, il est allé chez les jésuites, ça veut dire qu'il sait quelque chose.
La contre-réforme a été extraordinaire. Ils ont compris que c'était par l'éducation qu'il fallait agir, puisque c'est par l'éducation que Luther avait pris le pouvoir. Ils ont construit un système extraordinairement sophistiqué, en mettant de longues années, je raconte comment, pour construire une pédagogie extrêmement moderne, à l'époque, vraiment révolutionnaire, qui a permis à ce réseau incroyable d'écoles qui s'est progressivement constitué, de faire surgir une élite qui a structuré dans l'élite intellectuelle que politique des trois siècles suivants.
Mais quand l'éducation devient-elle un idéal ? C'est avec Rousseau ? C'est avec les Lumières ?
L'éducation, pour tous, est un idéal. On peut le dire avec c'est-à-dire l'éducation de savoir, d'avoir accès à tout. Ça devient un idéal avec les Lumières anglaises et allemandes et françaises en même temps, c'est-à-dire au début du XVIIIe siècle. Et puis, c'est ensuite formalisé par la Révolution américaine qui, elle, fait de l'éducation le seul moyen de cimenter, d'unir le peuple, puisque c'est un peuple qui fait d'immigrants qui parlent 15 langues différentes. L'éducation va être le seul moyen de construire une nation.
Avant le cinéma, ensuite il y aura le cinéma.
Ensuite il y aura le cinéma, mais un siècle et demi plus tard. Et donc c'est par l'école que se construit la nation américaine. Curieusement, par l'école et la poste, qui sont les moyens de liaison.
Et au même moment, vous dites qu'en Chine et dans l'islam, qui étaient deux mondes autrefois très ouverts à la science, on se fige au contraire.
On se ferme. L'islam se ferme au XIIe siècle, et alors c'est fascinant de voir qu'il n'y a pas d'imprimerie, il n'y a pas de, Il n'y a pas d'école en dehors des écoles religieuses, il n'y a aucune production littéraire. Et en Chine, pareil, on se ferme. On reste figé jusqu'à 1910-1911, la fin de l'Empire, dans la formation des élites administratives. Et ensuite, on va reprendre la même obligation de formation des élites, non plus pour l'Empire, mais pour le parti.
À partir de la Révolution française, on va former des citoyens. Au fond, on va transmettre aux élèves les exigences de la République, les exigences de l'État.
Oui, alors ça dure très brièvement, puisque la Révolution française, qui est une période fascinante, que j'essaie de l'écrire le mieux possible, va avoir énormément d'utopies qu'on va voir ressurgir après. Mais c'est une période très brève, parce que ce qui va se passer après, d'importance, ça commence par la Révolution, par ce qui se passe aux États-Unis, où on bascule d'une formation par la famille, par le travail de quelques-uns, à une formation de masse. Et au fond, l'école invente le travail à la chaîne.
Elle forme aux exigences du capitalisme.
Voilà, on passe de classe en classe, comme les machines, comme les automobiles passaient d'une poste de la chaîne à une autre, et on fait avancer les enfants. Et il y a un lien d'ailleurs très profond tout au long de l'histoire entre la façon dont on enseigne et la façon dont on travaille. Avant, l'enseignement se faisait comme dans les ateliers, c'était d'une façon très désordonnée, pagailleuse, sans hiérarchie. Il faut dire que les élèves n'étaient pas classés par groupe d'âge. Enfin, on enseignait à un élève à la fois. Donc c'était, on a du mal à imaginer ça pendant très longtemps. Et puis ensuite, on va enseigner à la chaîne, comme l'usine se fait à la chaîne. Et aujourd'hui, il y a sans doute aussi la même mutation, puisque le travail change avec le télétravail, etc. Et l'école va changer de la même façon.
Au fond, c'est au XXe siècle qu'on va véritablement entrer dans l'ère de l'éducation pour tous, y compris les femmes. Hein. Voilà. Et vous dites pour le meilleur et pour le pire.
Ben oui, parce que cette éducation de masse, qui est évidemment une condition de la démocratie, n'est une réussite à peu près nulle part. Ça reste une éducation extraordinairement élitiste, tant aux États-Unis qu'en France, qu'en Grande-Bretagne, que partout dans le monde, où ce sont toujours les mêmes, les familles les plus riches qui ont accès aux meilleurs savoirs et qui répètent le système. Rien n'a changé. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est terrifiant de voir combien le système est entièrement verrouillé par les grandes familles. En Grande-Bretagne, c'est pareil. Il y a un peu d'ouverture, bien sûr, avec les étrangers aux États-Unis, avec quelques universités nouvelles en Grande-Bretagne. Et en France, alors, le système est encore plus fermé qu'il n'y était il y a 50 ans. Donc, le système de l'école comme moyen de démocratisation ne fonctionne pas.
Et l'avenir, alors, vous le voyez comment, l'avenir ?
Il y a trois avenirs possibles. Il y a d'abord le fait que la croissance démographique dans une très grande partie du monde va entraîner des besoins d'écoles et de maîtres absolument inaccessibles aujourd'hui. Dites-vous qu'en Afrique, il y a aujourd'hui un maître pour 100 élèves et que à peu près la moitié de ces maîtres n'ont pas le niveau. Alors, si vous pensez que la population africaine va doubler dans les 30 prochaines années, c'est hors d'atteinte. Il y a un risque de ce que j'appelle la barbarie de l'ignorance. Et pas seulement dans les pays africains. L'Inde est dans le même cas. Certains pays qui avaient réussi à développer l'éducation sont en train de s'effondrer, c'est le cas du Mexique ou du Brésil. Donc il y a un grand risque de barbarie. Il y a un deuxième risque qui nous concerne nous davantage, c'est l'utilisation des nouvelles technologies, qui va être un formidable moyen, qui de toute façon sera très positif d'enseigner autrement, mais qui, lorsqu'il est dévoyé, comme c'est le cas aujourd'hui, sert surtout à jouer, à passer très peu de temps à apprendre, à ne plus avoir des capacités de concentration et à être solitaire. Et donc, il y a deux risques. Il y a donc le risque de la barbarie de l'ignorance et d'une barbarie technologique. Et j'essaie de montrer que dans les 20-30 ans qui viennent, d'autres technologies qui seront liées aux hologrammes, puis aux neurosciences, qui voudront faire en sorte qu'on apprenne en fonction de son QI, qui est un fantasme absolu, mais qui quand même continue à se développer, en particulier en Chine.
Ou en les greffes, en des puces aussi.
Voilà, tout ça est en train de se préparer. Peut créer un univers d'une nouvelle hiérarchisation technologique extrêmement, et d'une juxtaposition de solitude. Alors que l'IA des solutions, bien sûr, où on pourrait mêler d'énormes progrès qui ont été faits dans la pédagogie. La Finlande montre qu'on peut avoir un très bon système d'éducation qui fonctionne à condition de bien rémunérer les professeurs, d'avoir pas plus de 12 à 14 élèves par classe, de ne pas avoir de classement jusqu'à 15 ans, enfin toute une série, de ne pas donner accès aux écrans trop jeunes, toute une série de réformes qui sont tout à fait faisables, et de donner beaucoup plus de moyens à l'école, et d'utiliser les technologies, non pas comme des technologies de jeu, mais utiliser au contraire le jeu comme un moyen d'apprendre. Il y a là des progrès formidables. Et l'éducation par le numérique ou par les technologies va être une énorme source de croissance. Est-ce que ça sera seulement une source de croissance des marchés privés ou moyen de permettre à tous de savoir ? c'est encore pas certain. Après tout, quand on voit le téléphone portable qui a été immédiatement accessible à tous les Africains, on peut penser que le numérique peut être un moyen de rattrapage dans les pays en développement, mais ça suppose des réformes très orientées qui ne sont pas encore d'actualité. Cependant, on voit apparaître même dans les pays du Sud des réformes extraordinaires. Par exemple, il y a une petite start-up africaine qui a développé sur un téléphone le moyen de ne plus avoir besoin ni de savoir lire, ni écrire, ni compter. Parce que la machine, elle vous lit les messages, vous parlez, elle écrit vos messages et elle fait les opérations pour vous. Et même, un peu plus tard, elle va traduire. Donc on aura la possibilité de ne parler qu'une seule langue et d'être entendu dans toutes les langues, ce qui posera d'autres problèmes d'absence de culture, puisqu'on ne connaîtra plus les langues des autres.
Histoire et avenir de l'éducation, histoire et avenir avec un S, hein, au pluriel chacun. Ça vient de paraître aux éditions Flammarion. Merci Jacques Attali.
Merci Frédéric.
On fait une pause, on se retrouve dans un instant. On va s'intéresser à un autre moyen de transmission, ce sont les affiches publicitaires.